SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio.
Allez, de retour avec Nathanaël Bloch pour décrypter le nouveau gouvernement français qui a été annoncé cette semaine. Bonjour Nathanaël.
Bonjour Christophe.
Alors, quelques surprises, mais plutôt une ligne qui est en corrélation avec ce qu'on attendait, en fait, qui avait été promis presque.
Alors, vous avez tout à fait raison. En termes de stratégie politique, Emmanuel Macron respecte à la lettre ce qu'il avait promis pendant...
Ça fait presque peur.
Qu'un politique respecte ses engagements.
Ouais.
Écoutez, on verra. Hein. On peut isoler 5 promesses de campagne par rapport à son gouvernement, 5 engagements qu'il est véritablement en train de respecter. C'est un gouvernement d'abord paritaire, et puis au-delà de la parité, j'allais dire, de façade ou mathématique, où on a effectivement 9 hommes ministres, 9 femmes ministres, 2 secrétaires d'État hommes, 2 secrétaires d'État femmes, on a en plus des femmes à des postes à haute responsabilité, puisque c'est toujours un peu le reproche qu'on fait au gouvernement, c'est de nommer finalement... toujours des femmes à des postes de seconde zone. Là, on a par exemple Sylvie Goulard, qui est aux armées, qui est une spécialiste des questions européennes. Donc, elle aura une véritable importance et une véritable plus-value sur cette question.
Numéro 4 dans la hiérarchie, je crois.
Exactement, des questions de défense européenne. On a Agnès Buzyn, qui est une spécialiste reconnue de la santé, qui a été nommée ministre de la Santé. On a Madame Pénicaud, au travail. Donc, on a véritablement on a une parité et on a des femmes à des postes à responsabilité.
Mais est-ce qu'on peut dire que, tout d'abord, les ministres, que ce soit ministre d'État ou les ministres qui ont été nommés, sont dans le champ de leur activité?
Alors, c'est un deuxième engagement qui a été respecté de la part d'Emmanuel Macron, c'est qu'il avait véritablement réuni des compétences. Souvent, en fait, les ministres passent d'un portefeuille à un autre. Mathématiquement, du fait du renouvellement, là, on va avoir des personnalités nouvelles qui n'ont jamais exercé des fonctions de ministres ou qui viennent de la société civile et qui, en plus, correspondent aux compétences acquises durant leur parcours professionnel. On l'a dit, on a une professeure de médecine ancienne de la Haute Autorité de Santé à la médecine. On a une éditrice
à la culture.
À la culture.
En plus, une éditrice alternative, en plus. C'est pas,
Acte suite, tout à fait. Et en plus, c'est un signal fort parce que ces dernières années, on a toujours nommé des personnes issues du spectacle vivant ou plutôt du milieu du cinéma à la culture et jamais en fait quelqu'un du milieu de l'édition. Donc en plus d'avoir quelqu'un de compétent, on a un signal véritablement fort pour cette industrie qui des fois se sent un petit peu délaissée. On a Mounir Majoubi, ancien président du CNUM, qui est au numérique, qui était le responsable de la campagne numérique d'Emmanuel Macron.
Laura Flessel au sport.
Voilà, Laura Flessel qui porte la candidature de Paris 2024. Donc effectivement, ce deuxième engagement après la parité, qui est celui des compétences, d'exercer un poste avec une responsabilité en fonction de ses compétences, est respecté. Un troisième engagement d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir réussi finalement un mix assez savant en réunissant des personnes de gauche, des personnes de droite, des personnes du MoDem et des personnes issues de la société civile dans son gouvernement et de manière assez finalement équilibrée. On a 3 LR dissidents, si je compte le Premier ministre Édouard Philippe avec. On a 2 PS dissidents, messieurs Collomb et monsieur Le Drian. On a 3 personnalités MoDem, monsieur Bayrou, madame de Sarnez, madame Goulard, même si elle a rejoint très récemment En Marche, c'est quand même une figure historique du MoDem. On a des personnalités En Marche et on a des gens de la société civile. Donc on a véritablement aussi, de la part d'Emmanuel Macron, un respect de cet engagement de composer un gouvernement, une task force d'union nationale. Le quatrième élément d'Emmanuel Macron, enfin qu'Emmanuel Macron respecte dans son gouvernement, c'est d'avoir un gouvernement resserré. Il a annoncé 15 ministres, bon, il en a 18, donc on reste dans les clous. Et finalement, on n'a pas une armée mexicaine de secrétaires d'État, on a 4 secrétaires d'État. Chose importante en plus, secrétaires d'État qui sont rattachés au Premier ministre. C'est-à-dire qu'ils vont avoir le Premier ministre va pouvoir porter les projets des secrétaires d'État et imposer certaines orientations à l'ensemble du gouvernement. Chose qui aurait été beaucoup plus difficile si un secrétaire d'État était rattaché simplement à un ministre lambda. Et puis enfin, cinquième élément, qui est peut-être le moins respecté, mais qui est quand même présent, c'est la moyenne d'âge. Emmanuel Macron voulait un gouvernement renouvelé, dans la veine de son jeune âge aussi à lui. on a une moyenne d'âge de 54 ans. C'est équivalent au dernier gouvernement Valls. C'est plus jeune que le gouvernement Ayrault, qui avait une moyenne d'âge d'à peu près 57-58 ans. Et puis, chose importante, c'est qu'il a un premier ministre aussi qui est jeune, qui va insuffler une vraie dynamique. Édouard Philippe, il a 46 ans. C'est le troisième ministre le plus jeune de la Ve République. Et il a trois trentenaires avec lui dans son gouvernement. Donc, ces cinq critères, la parité, le savant mix, la moyenne d'âge, le fait d'avoir un gouvernement serré et des compétences, pour l'instant, c'est pari réussi et respecté par Emmanuel Macron.
Alors, qu'est-ce qu'on sait du Premier ministre ? Maire du Havre, exposé à la politique depuis un petit moment, énarque. Donc, il est issu de cette filière quand même politique, mais il n'a pas été non plus trop exposé. Il a d'ailleurs été en Australie. Il était en Australie il y a quelques temps, l'année dernière, je crois. Mais c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément du grand public si on n'habite pas la Normandie ou le Havre.
Alors, Édouard Philippe, c'est quelqu'un qui est assez respecté dans le milieu politique et le paysage politique français. C'est quelqu'un, un peu à la manière, si je prends la comparaison avec Gérard Collomb, c'est quelqu'un qui a su redynamiser sa ville au Havre. Il a fait des opérations de réaménagement, du développement économique, introduit beaucoup d'initiatives culturelles. Donc c'est quelqu'un qui a un véritable ancrage local. C'était un élément important pour Emmanuel Macron, c'était aussi de nommer des ministres pas complètement déconnectés des réalités du quotidien. Et avec Édouard Philippe, en Premier ministre, en capitaine de ce gouvernement, c'est le cas. C'est aussi le cas avec Gérard Collomb. On sait tout le bien et tous les Lyonnais lui sont reconnaissants de ses années en tant que maire. Donc Édouard Philippe, c'est quelqu'un qui a une véritable reconnaissance sur la scène locale, dans sa circonscription et plus largement dans son département et dans sa région aujourd'hui de Normandie. Et puis au-delà de ça, Édouard Philippe, c'est un fidèle de longue date d'Alain Juppé. Ils sont deux, Gilles Boyer qui se déclare être son bras gauche, puisqu'Alain Juppé n'a pas besoin de bras droit. Mmh. Et puis le deuxième homme qui accompagne Alain Juppé depuis quelques années, c'est Édouard Philippe. Il était aussi il était aussi au départ, au moment de la création de l'UMP en 2002. Il était là, à la direction. Donc voilà, c'est quelqu'un véritablement, en fait, qui est peu connu du grand public, mais qui est à la fois reconnu par les gens de sa circonscription et aussi par le microcosme politique, comme quelqu'un de sérieux, mais aussi d'une certaine façon qui sait prendre de la distance avec le profil plus classique de certains hommes politiques. Donc pour l'instant, il a plutôt une bonne image, même si les derniers sondages montrent que les Français ne lui font pas de cadeaux et qu'il n'y a pas d'état de grâce. Mais voilà, c'est quelqu'un qui potentiellement peut réaliser certaines choses et qui a une certaine confiance de la part de ses pairs.
Et à 1m94, c'est aussi le plus grand Premier ministre que la France n'ait jamais eu.
C'est tout à fait juste.
Faut le savoir dans les anecdotes. Il a quand même une tâche assez lourde parce que il y a les élections législatives, on l'a dit, qui arrivent d'ici un mois à peu près. Ça veut dire que soit il a une durée de vie plutôt courte, soit il faut aller gagner cette élection législative. Est-ce qu'il va vraiment aider le mouvement En Marche pour être le leader de ce que Emmanuel Macron veut pour la France dans l'avenir? Comment ça va se passer? Parce qu'il est quand même des Républicains. La complexité, elle est claire pour les Républicains dans ces législatives.
Alors, c'est une très bonne question. Mais j'allais dire, c'est presque les Républicains qui ont aidé Emmanuel Macron et Édouard Philippe à mener la campagne législative. Parce que quand Édouard Philippe a été nommé par Emmanuel Macron en début de semaine, les Républicains, en fait, ne l'ont pas exclu.
Alors déjà, juste pour faire un petit aparté, il nomme un Premier ministre des Républicains. Est-ce que dans l'opinion publique, il casse cette idée de dire qu'il est le bébé Hollande et que c'est qu'une gauche édulcorée?
En fait, la plus grande victoire d'Emmanuel Macron ces derniers jours, c'est d'avoir fait dire à la droite qu'Emmanuel Macron est en fait quelqu'un de gauche et d'avoir fait dire à la gauche qu'Emmanuel Macron est en fait quelqu'un de droite.
Donc en moyenne, il est au milieu.
Donc en fait, il a réussi son pari de déranger un petit peu les deux camps. Et puis pour revenir à Édouard Philippe, donc en fait, il n'est pas exclu des Républicains au moment où Emmanuel Macron le nomme Premier ministre. Par contre, quand le gouvernement et quand Édouard Philippe choisit avec Emmanuel Macron son gouvernement et que les noms de Bruno Le Maire, de Gérald Darmanin, donc deux membres éminents des Républicains sont nommés, à ce moment-là, les Républicains décident d'exclure immédiatement, c'était action-réaction sur les réseaux sociaux, d'exclure immédiatement Édouard Philippe, Gérald Darmanin et Bruno Le Maire des Républicains. Donc en fait, d'une certaine façon, ils ont aidé Édouard Philippe à avoir les mains libres et à pouvoir mener cette campagne des législatives. Ce qui aurait été effectivement, vous avez raison, plus compliqué s'il gardait son étiquette les Républicains. Là finalement, ils sont devenus dissidents, ils sont devenus des parias de la famille. Maintenant, est-ce qu'ils vont devoir rejoindre, est-ce que par exemple Édouard Philippe qui ne se présente pas aux législatives, est-ce qu'il va devoir rejoindre La République En Marche? Je ne sais pas, mais en tout cas, il a les mains libres par rapport à sa famille historique pour aider, j'allais dire non plus de manière cachée, mais pour aider de manière visible et proactive, le parti d'Emmanuel Macron a remporté ces législatives. Sur cette histoire des Républicains, je veux aussi revenir sur, l'audace et la stratégie gagnante d'Emmanuel Macron, puisqu'en fait, il n'y a aucune hémorragie, on ne va pas lui reprocher d'avoir attiré tous les talents de droite à lui. Par contre, il a attiré des talents très symboliques, puisqu'il attire, il met en Premier ministre un très proche d'Alain Juppé, et puis en fait, il verrouille l'économie et le budget en mettant Bruno Le Maire, qui n'avait pas réussi d'une certaine façon à imposer son renouveau au sein de l'UMP, au sein des Républicains, pardon, il avait fait un score assez faible aux primaires, et puis Gérald Darmanin, le poulain de Xavier Bertrand, mais surtout un sarkozyste, un bébé Sarkozy. Donc il a réussi, avec seulement 3 prises, à finalement mettre une certaine dose de pagaille dans la famille des Républicains.
Et d'autant plus que, et si on ne fait pas une parallèle par rapport à l'âge, mais on va quand même en parler, beaucoup de gens dont on a entendu parler au niveau des Républicains depuis l'élection d'Emmanuel Macron, c'est des gens qui ont soit tard dans la cinquantaine, soixantaine, 70 ans, avec Raffarin, etc. Mais là, d'un seul coup, il prend des gens beaucoup plus jeunes. Donc c'est un peu comme s'il saute une génération et d'un seul coup, il les prend un peu à contre-pied.
Alors, ce qui se dit dans les petits cénacles parisiens, c'est que, en fait, Emmanuel Macron, il a envoyé au tapis, il a ringardisé toute une génération de quinquagénaires historiques de la droite à qui un bel avenir était promis. Les Pécresse, etc. En fait, d'un coup, se sont vus passer sous le nez les responsabilités. Je rappelle encore qu'il y a 6 mois, c'était une élection imperdable pour la droite. Ouais. Ils auraient dû se partager le pouvoir, ces gens-là. Et puis, d'un seul coup, Emmanuel Macron vient, il chamboule tout l'échiquier politique, il rajeunit, il ringardise les historiques des partis qui sont là depuis. Ils ont beau être quinquagénaires, ça fait 25-30 ans qu'ils sont là. Donc voilà, donc effectivement, c'est une véritable stratégie politique gagnante d'Emmanuel Macron vis-à-vis de la droite, mais également vis-à-vis de la gauche, où là, finalement, il fait plus grand-chose maintenant. L'hémorragie, il y a aucun pansement qui a été mis sur la plaie, et l'hémorragie de la gauche, elle continue naturellement. Voilà, chaque jour. Il va y avoir des soutiens, des PS dissidents qui décident d'aller aux législatives en restant PS mais en ne l'affichant pas, en se déclarant PS mais voulant rejoindre la majorité présidentielle, ce qui évidemment pour le parti de Jean-Christophe Cambadélis est inconcevable, c'est-à-dire soit on est Parti Socialiste, soit on est La République En Marche.
Il l'a d'ailleurs dit, hein.
il ne peut pas dire autre chose. Donc effectivement il a réussi son pari politique et si vous me permettez on peut même rajouter au niveau des Verts, au niveau des écologistes ou des personnes ayant une sensibilité écologiste, Emmanuel Macron, il fait la plus belle prise écolo de ces dernières années avec Nicolas
Hulot. Quand on dit ces dernières années, de ces presque dernières décennies en plus. Parce qu'il y a longtemps que les gens grattaient à la porte de Nicolas Hulot. Même Nicolas Sarkozy avait tenté de ramener Nicolas Hulot, qui est une des personnalités préférées des Français d'ailleurs. La personne qu'il a eue, c'est Emmanuel Macron.
On peut même remonter plus loin. Jacques Chirac avait essayé d'attirer Nicolas Hulot sous son escarcelle. Donc non, effectivement, il réussit une très belle prise. Et c'est d'autant plus une belle prise que, vous l'avez dit, c'est une personnalité qui est appréciée des Français. Et puis aussi, c'est une personnalité qui a un crédit auprès, je pense par exemple aux associations écologistes, qui pour l'instant, je prends l'exemple de WWF, dit ben, voyons ce qui se passe. Nous, on respecte totalement le parcours, les convictions de Nicolas Hulot. Et puis, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas essayer de faire de l'intérieur des grandes choses comme il l'a fait ces dernières années.
J'ai une question sur ce gouvernement. Jean-Yves Le Drian, j'ai presque envie de dire, il fait quoi ici ? Jean-Yves Le Drian, c'est l'ancienne politique. Il est un peu à contre-pied de tout ce qui se passe, mais il a soutenu Emmanuel Macron dans les derniers mois de la campagne présidentielle. Ça semble un peu quand même bizarre de le faire changer de ministère. Alors, je ne dis pas qu'il n'est pas brillant ou quoi que ce soit, mais dans ce mouvement, est-ce que ce n'est pas un peu justement l'exception à la règle en fait ?
C'est exactement ça, Christophe. C'est-à-dire que Jean-Yves Le Drian, il a de l'intérêt dans cette équipe gouvernementale parce que des profils comme lui, ben, il n'y en a qu'un, en fait. Et d'une certaine façon, ça rassure. Le message que ça envoie, c'est du gouvernement Hollande, on va garder les meilleurs, on va garder les plus appréciés. Et donc, même de ce point de vue-là, par rapport à la longévité de Jean-Yves Le Drian dans les gouvernements successifs de ces dernières années, c'est une réussite d'Emmanuel Macron. Il prend le meilleur du gouvernement Hollande pour le faire travailler avec lui.
Et aujourd'hui, est-ce que Jean-Yves Le Drian doit quitter la région Bretagne ? Parce que ça s'était déjà posé la question s'était déjà posée presque la première fois et la deuxième fois. Est-ce qu'on peut encore se reposer la question ? Est-ce qu'il doit quitter la région de Bretagne ou pas ?
Alors la question, c'est votre question, elle est intéressante, c'est de savoir si on doit passer de les promesses n'engagent que ceux qui croient Nicolas Sarkozy ou les promesses engagent ceux qui les prononcent Emmanuel Macron. Il va être opposé à ce genre de... On va fact-checker de plus en plus maintenant les propos d'Emmanuel Macron. J'ai pas de réponse pour Jean-Yves Le Drian. Je ne sais pas ce qu'il va faire.
J'attendais pas une réponse. Hein. on ouvre le débat.
Non, mais vous avez raison. Mais par exemple, on a la même question, on a la même interrogation par rapport au ministère des droits des femmes. Emmanuel Macron avait vraiment installé cette idée qu'il y aura un ministère de plein exercice de l'égalité homme-femme, des droits des femmes, etc. Finalement, on a un secrétariat d'État. Et on le voit bien avec les premiers éléments de langage quand on a reproché à Emmanuel Macron, on lui dit « mais vous ne devez pas nommer un ministère de plein exercice ». Il dit « finalement, un secrétariat d'État est plus efficace parce que rattaché au Premier ministre, ça pourra un peu infuser dans tous les ministères ». Bon, là, on retourne un peu dans la vieille politique des éléments de langage, mais voilà, Emmanuel Macron n'échappera pas non plus à certaines promesses, pas forcément les plus importantes, mais certaines promesses qu'il ne pourra pas respecter pour X raisons ou X contraintes. Donc, Jean-Yves Le Drian, on verra bien... On verra bien à la suite, dans les faits, effectivement, s'il quitte ou pas la région Bretagne. Je prends toujours ces premières difficultés. Les élus Modem, par exemple, Marielle de Sarnez. Alors, les élus Modem, c'est intéressant ce qu'a fait Emmanuel Macron, puisqu'il en a placé deux à des postes en relation avec l'Europe. Et on sait que le Modem a véritablement une compétence, une expertise, et j'ai presque envie de dire une envie d'Europe. Donc, c'est très intelligent ce qu'il a fait. Mais Marielle de Sarnez, par exemple, elle a aussi fait déjà, je crois, 4 mandats. Et Emmanuel Macron avait dit qu'au bout de 3 mandats, out la politique. Donc pareil, on va voir dans les prochains jours comment il va se dépatouiller par rapport à toutes les promesses de campagne et si ça va tenir ou pas.
Est-ce qu'au sein du mouvement En Marche aujourd'hui, on se prend vraiment à rêver à gagner ces élections législatives qui arrivent ? Est-ce que c'est réellement possible ?
En fait, ce qui est intéressant en politique, c'est de voir la dynamique, Christophe. Et on le voit avec les projections sur les législatives, c'est qu'effectivement, une dynamique Macron est en train de se créer. Mais c'est ce qu'on disait déjà dans l'entre-deux-tours des présidentielles, c'est le pari d'Emmanuel Macron, c'est de créer une dynamique avec un score assez élevé au deuxième tour pour continuer et véritablement lancer la dynamique en vue des législatives. Et j'ai envie de répondre à votre question. Oui, le parti rebaptisé La République En Marche se prend à rêver d'une majorité absolue pour les législatives. Je rappelle la majorité absolue de 289 députés à l'Assemblée nationale. Et on a d'ailleurs un dernier chiffre d'un sondage OpinionWay Orpi pour les Échos et Radio Classique. Alors, ça ne prend pas en compte tous les Français, parce que les modalités de calcul sont plus compliquées, par exemple, pour les Français de l'étranger, donc pour les Australiens ou pour l'Outre-mer. Mais La République En Marche obtiendrait 27% d'intention de vote. Et si je traduis ça en nombre de sièges après le deuxième tour, ce serait entre 280 à 300 députés, c'est-à-dire
donc
une majorité.
On y est.
Donc, effectivement, La République En Marche et les cadres de La République En Marche maintenant se mettent clairement à, même plus à rêver, mais à espérer d'avoir cette majorité absolue pour ne dépendre de personne et ne pas devoir réaliser des alliances au compte-gouttes en fonction des projets de loi, etc.
D'accord, alors on va finir avec lui, le cas Manuel Valls. Il a été échec et mat presque tout au long de cette longue campagne. Et quand on pense qu'il n'y en a plus, il y en a encore de cerner et de faire un échec et mat à Manuel Valls. Là, il a été débordé un peu de tous les côtés quand même.
En politique, on n'est jamais mort. C'est un adage qui circule beaucoup. Non, mais en fait, Manuel Valls, c'est aussi intéressant ce qu'est en train de faire le parti d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun intérêt à le tuer définitivement et à lui opposer un candidat face à lui pour les élections législatives. Déjà, parce que la famille de pensée de Manuel Valls, finalement, sur certains points, elle rejoint la famille de pensée d'Emmanuel Macron. Je veux dire, c'est quand même c'est l'aile droite de la gauche. Et puis aussi parce qu'Emmanuel Valls, il a quand même créé un courant avec lui. Alors évidemment, il est minoritaire aujourd'hui, mais c'est toujours pareil en politique. C'est quand on est au fond du trou, plus personne ne vous regarde. Par contre, quand on reprend un peu la lumière, là, les hyènes reviennent et tout le monde se remet autour de vous. Donc effectivement, Manuel Valls a peut-être fait des choix qui étaient mauvais pendant cette primaire et puis présidentielle et maintenant campagne législative. Mais je peux vous dire qu'il comptera encore dans le quinquennat d'Emmanuel Macron et je ne serais pas surpris de le revoir avec des responsabilités, je ne sais pas lesquelles, dans les prochains mois.
D'accord. Allez, toute dernière question. Emmanuel Macron, jeune président, est-ce qu'on peut déjà dire qu'il démontre le fait qu'il est un vieux loup de la politique, enfin, ou en tout cas un loup de la politique ?
Alors, je ne sais pas si c'est un loup de la politique. En tout cas, c'est un fin stratège. Ça, clairement, On le voit là, depuis les présidentielles, et pour l'instant, il n'y a vraiment pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur de stratégie en vue des législatives. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un fin stratège, mais c'est qu'il y a quand même à côté un renouveau de la pratique politique. Pour l'instant, ça lui réussit bien. Maintenant, il faut voir s'il pourra, sur le long terme, résister aux attaques et surtout aux premières sirènes d'un retour à certaines pratiques un peu anciennes. Et clairement, le renouvellement promis, le non-cumul des mandats, la moralisation de la vie politique, on le voit aussi avec Édouard Philippe qui avait eu certaines difficultés à déclarer son patrimoine. On va voir si ces premières promesses très structurantes d'Emmanuel Macron, il pourra les tenir dans les prochains mois. Et alors là, je pourrais vous dire oui, Emmanuel Macron n'est pas un vieux loup de la politique, c'est un stratège. C'est un jeune renard.
Voilà, merci Nathanaël. On sera un plaisir de suivre tout ça encore une fois avec vous. Merci.
Merci Christophe.
SBS French. Mardi, jeudi, samedi et dimanche, à 13h ou à tout moment en ligne.